Bonjour à toutes et à tous. Christophe Jubien pour vous accueillir dans la présente édition de Par ici, elle est sortie. Je suis très heureux de vous présenter cette édition car aujourd'hui, c'est si j'ose dire, le dégel. Les théâtres, les salles de spectacle, les cinémas peuvent à nouveau recevoir du public et le public est au rendez-vous, comme nous l'explique Isabelle Vincent, adjointe à la culture de la ville de Chartres, avec qui nous faisons le point sur cette rentrée culturelle.
Un vrai bonheur parce qu'effectivement au Musée des Beaux-Arts nous avons eu pendant ce week-end près de 400 personnes, un peu plus de 400 à la Maison Picassiette et au Prieuré Saint-Vincent avec la réouverture de l'exposition, plus de 120 personnes. Donc écoutez, je pense que c'était un vrai besoin pour les gens de revenir fréquenter ces lieux de culture.
On va commencer peut-être par parler justement de l'exposition du Prieuré Saint-Vincent puisque nous avons interviewé l'artiste que les auditeurs pourront entendre après vous. Donc une première exposition. C'est le bonheur de voir les lieux rouvrir avec une très belle, justement, double expo.
Oui, un beau binôme, effectivement, en la personne de Carole Melmou qui donc peint et Daniel de Kayser qui sculpte. Un très beau mariage dans un lieu toujours aussi ravissant qui plaît beaucoup au public. Et nous sommes heureux de les avoir accueillis depuis samedi dernier pour 3 semaines. Et l'artiste, d'ailleurs, viendra régulièrement, je crois, le samedi à la rencontre du public.
Donc ça, c'est dans le cadre du chemin des arts. Après le Prieuré Saint-Vincent, eh bien, on prend la rue des Écuyers et on remonte la rue Saint-Amand jusqu'à la chapelle. Et là encore, il y aura de très belles mosaïques à découvrir prochainement.
Et oui, dans la programmation qui est effectivement organisée par l'association des 3R, nous aurons une artiste italienne qui viendra à partir du 19 juin nous présenter ses œuvres. Donc on continue dans notre itinéraire de découverte culturelle.
La musique avec un premier concert, évidemment, alors là, jauge limitée, hein, on reste dans le réalisme, mais les profs du conservatoire s'y collent.
Oui, je vous y invite fortement, effectivement, à venir à l'église Saint-Aignan le vendredi 28 mai à 19h. Vous pourrez entendre un concert trompette-orgue par les professeurs du conservatoire. Et c'est vrai qu'ils avaient hâte également de renouer avec les concerts et avec la rencontre du public.
Chartres accueille cette année les ateliers Art de France avec un concours et une remise évidemment de prix. C'est la première fois que Chartres accueille ce concours.
Oui, tout à fait. Nous avons été sollicités effectivement par les ateliers d'Art de France et nous organisons au niveau régional ce jury qui se tiendra à Chartres. Vous pouvez admirer déjà les œuvres des artisans à sélectionner dans l'édicule qui est sur la place de la mairie. Et donc le 15 juin, le jury se réunira pour délibérer et donner ce prix régional pour commencer. Il faut savoir que nous avons adhéré depuis plus de 2 ans à l'association Ville et Métiers d'Art et que nous avons à cœur de défendre effectivement l'activité des artisans d'art.
Il y aura donc, je crois, un prix de 1 000 euros et ensuite la possibilité de concourir au niveau national.
Exactement. Je crois que c'est un concours qui est très prisé des artisans d'art et nous sommes très heureux d'accueillir, en tout cas à Chartres cette année, ce jury régional.
Le vitrail sera à l'honneur tout au long de la belle saison, comme on l'appelle, quoique aujourd'hui c'est pas terrible. Le vitrail avec les ateliers Loire d'un côté et les ateliers Lorrain de l'autre.
Tout à fait. Alors, l'exposition d'été à la Collégiale Saint-André fera une rétrospective, si je peux dire, des ateliers lorrains qui aujourd'hui sont en activité mais fermés au public malheureusement. Donc, faire partager au public la richesse de ces ateliers, leur faire découvrir par le biais des expositions qui seront à la Collégiale, tout ce qui se passe dans ces ateliers au cœur de la ville de Chartres. Ils sont connus mondialement et il faut le savoir. Et c'est vrai que parfois on ne le sait plus. Donc ça nous tenait à cœur aussi, en partenariat, notamment avec la conservation régionale qui donnera des photos pour exposer sur les boulevards. Donc une interactivité sur le territoire très importante. Et je peux continuer sur les ateliers Loire.
Ah oui, les ateliers Loire avec cette exposition assez assez surprenante sans doute.
Voilà, alors les ateliers Loire. Alors vous les verrez au Prieuré Saint-Vincent, une collaboration d'artistes avec les ateliers, donc avec des choses très différentes. Des œuvres également sur le domaine public. Ça c'est toujours intéressant de découvrir dans le périmètre urbain les œuvres qui seront en extérieur. Et puis également au musée, une exposition sur Gabriel Loire, mais alors là, un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir, pas des vitraux, mais des objets insolites peut-être autour des jeux et du jeu, voilà, qui donnera lieu d'ailleurs à des ateliers pour enfants et découvrir cet artiste sur une forme créative un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir.
Alors, plein d'autres choses, bien évidemment, dans le domaine de l'archéologie, une nouvelle application, tiens, qui est assez rigolote, qui permet de découvrir une sorte de, je sais pas, de carte archéologique, ça, des lieux archéologiques de la ville de Chartres.
Et oui, vous tapez Sherlock et vous allez effectivement tomber sur une carte interactive, puisque alors le principe des fouilles archéologiques, c'est qu'une fois qu'elles sont fouillées, eh bien malheureusement on les recouvre. Et donc là, à partir de cette carte, vous cliquez sur un point. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup, effectivement, sur l'agglomération, sur notre territoire. Et vous aurez une petite fiche qui vous dira, qui vous annoncera tout ce qui a été découvert, fait, pourquoi, comment. Donc vraiment, je vous incite à découvrir votre patrimoine archéologique à travers cette application ludique, facile, et qui est une vraie reconnaissance pour le travail archéologique. Et voilà, une vulgarisation aussi de ce qui peut se trouver sur notre territoire.
Et puis pour finir, on a une petite pensée pour les compagnies de théâtre de Chartres qui rouvrent petit à petit avec des jauges évidemment et des spectacles étudiants en fonction. Mais la ville de Chartres pense à eux parce que le chantier du HOF se poursuit. On en est où ?
Nous en sommes aux finitions et comme vous le savez, les finitions sont parfois très délicates, mais bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retard. Donc dernier trimestre de l'année 2021, effectivement, nous serons bien au rendez-vous pour accueillir nos compagnies locales et plus largement, de toute façon, tout le monde attend ce rendez-vous et cette réouverture.
Je rappelle juste pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas ce projet, c'est dans l'ancien cinéma ABC à Chartres et ça servira à quoi en fait, Lof?
Alors, le HOF, ça servira avec effectivement ces salles, ça servira à accueillir en résidence des compagnies, ça servira à faire de la diffusion, de la création. Donc, c'est un lieu pour les artistes, pour les comédiens, pour les théâtres. Donc, voilà, c'est une offre supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà sur le territoire et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à cette proposition.
Merci beaucoup, Isabelle Vincent.
À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père a la télé. Regarde les sports religieusement. Et moi j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi, y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h05 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir, je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit. Et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie, il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point.
Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat, porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. vol Air France 007, embarquement immédiat, porte numéro 44.
Gilbert Bécaud, le dimanche à Orly, le regretté, le très regretté Gilbert Bécaud. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel, l'émission Par ici, les sorties qui vous informe sur l'actualité culturelle à Chartres. Et ça tombe bien puisque l'activité culturelle reprend tous azimuts au Prieuré Saint-Vincent dans le cadre du Chemin des Arts programmé par la ville de Chartres. Une double exposition, sculpture et peinture. Les sculptures sont de Daniel Dekaiser et les peintures de Carole Melmou. Nous avons pu rencontrer lors du vernissage notre amie peintre Carole Melmou. Je vous propose de la découvrir tout à fait cessante. Carole Melmou, nous sommes très heureux de vous accueillir, évidemment, à Chartres, pour inaugurer une exposition que tout le monde, évidemment, attendait. Tout le monde attend de pouvoir admirer à nouveau les œuvres des artistes. Vous aussi, ça a été une période, j'imagine, très difficile à vivre en tant qu'artiste, non ?
On est toujours un petit peu en confinement quand on travaille comme peintre, parce qu'on est quand même beaucoup en atelier. Même quand si on sort à l'extérieur pour peindre, bon là on rencontre un peu le public, mais c'est vrai que là pour moi à cette période c'était vraiment très important de pouvoir participer à la réouverture des musées et cette exposition, ben c'est une manière aussi de me joindre à tout ça, voilà.
Alors on va remonter un peu le temps et puis je vais vous poser des questions un peu sur votre enfance, sur votre jeunesse, comment vous êtes devenu peintre. On fait tous un peu de barbouille quand on est gosse ou à l'adolescence. Et pourquoi on continue ?
Alors j'ai eu la chance, mes parents m'ont inscrite dans un atelier d'art à Étampes quand j'avais 8 ans. Et il se trouve que c'est un atelier finalement qui a formé beaucoup de peintres. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu rencontrer en fait Philippe Lejeune qui était le fondateur de cet atelier. Bon, à l'époque j'étais enfant, mais j'ai pu côtoyer les peintres comme François Legrand et Christophe Debuchère aussi. Et moi j'étais plus jeune, mais bon voilà. Donc c'est ça en fait qui m'a amenée à la peinture au départ. Mais j'étais très intéressée par les arts et j'ai finalement bifurqué vers la danse classique et j'en ai fait beaucoup. Et donc je suis rentrée au Conservatoire National Supérieur de Paris où j'étais élève pendant 3 ans. Et ensuite j'ai décidé de m'orienter vers des études de littérature. Donc j'ai eu un master de lettres modernes. Et ensuite, je suis retournée j'ai voulu retrouver Philippe Lejeune. Je suis allée voir. Au départ, je voulais faire du modelage parce que comme je venais de la danse aussi, je voulais pouvoir représenter les corps et puis aussi le volume, la profondeur, vraiment le volume. Et lui, il m'a dit, non, moi, je suis pas sculpteur, mais si vous voulez, je peux vous apprendre la peinture. Donc, je me suis retrouvée finalement élève de Philippe Lejeune. Et c'est vrai que mon désir, c'était toujours de vouloir représenter la troisième dimension en 2 dimensions. Donc ça, c'était un peu la difficulté. Et dans mes tableaux, c'est ça aussi que j'essaye de représenter, c'est cette profondeur. Et ça me tient beaucoup à cœur. Et après, la danse, comment introduire la danse ? Le mouvement, donc par des personnages, par des situations comme des vues d'atelier où les gens sont en mouvement, par les végétaux aussi que je peux peindre, les fleurs qui sont aussi en mouvement, même si on croit qu'elles sont statiques, elles sont vivantes. Et ça, c'est ça qui me tient à cœur aussi dans ma peinture, c'est de représenter le mouvement, le changement des lumières, le côté vibrant de la réalité.
La danse a toujours beaucoup inspiré les peintres. Évidemment, on pense aux danseuses de Degas, mais oui. Je pense aussi à la Ronde de Matisse. Oui, Matisse. On peut penser à Matisse parfois, d'ailleurs.
Tout à fait. Ouais. En fait, la danse, après, la danseuse en elle-même, c'est un très beau sujet, comme la peint de Degas. Mais moi, en fait, je voulais pas faire ça parce que j'ai été moi-même danseuse. Donc, c'est vrai que représenter des danseuses, c'est pas ce dont j'avais envie. Moi, vraiment, ce qui me plaisait, c'était plutôt essayer de représenter l'expression du corps, c'est-à-dire comment la danseuse, par le corps, peut exprimer quelque chose. Vous voyez, plus que la danseuse avec son tutu, etc. Bon, c'est pas du tout. Moi, j'adore ce qu'a fait Degas. Vraiment, je trouve que c'est magnifique. c'est pastel surtout. Et mais ce qui me plaisait, c'est l'expression du corps. Et la posture et le...
Et le ressenti, parce que je me dis que vous avez été dans ce... Le ressenti, vous le connaissez. Vous avez essayé aussi de le traduire en peinture.
Oui, tout à fait. La gestuelle, en fait. Il y a la gestuelle, le mouvement, alors qu'on retrouve aussi par la musique. C'est pour ça que dans la peinture, il y a aussi une musicalité. Vous voyez, il y a aussi la musicalité qu'on retrouve dans les couleurs, dans comment les couleurs sont associées. Et ça crée une forme de musique, en fait. Parce que moi, voilà, quand j'étais danseuse, en fait, j'étais aussi très, très sensible à la musique. On avait un pianiste qui jouait du piano pendant nos cours. J'avais cette chance-là. Et c'était magique.
Pianiste russe, non?
Non, c'est magique.
Vous êtes aussi, donc, vous l'avez dit, détentrice d'un master de lettres modernes. Les peintres et notamment les poètes au cours du XXe siècle ont beaucoup dialogué ensemble. Vous avez aussi... qu'est-ce qui vous a séduit, tiens, dans les lettres modernes, par exemple? Vos goûts vont où?
Alors, moi, j'étais plus... Bon, la poésie. Ça, c'est sûr. C'est ce qui m'a beaucoup plus touchée entre tout. Les contemplations de Victor Hugo, ça, j'ai adoré. Et puis après, c'était plutôt des situations psychologiques aussi. La princesse de Clèves, ça m'a beaucoup touchée. Phèdre aussi, enfin, cette figure féminine m'a beaucoup... Antigone, c'est des figures féminines qui m'ont beaucoup marquée. Et mais aussi, enfin, j'ai rencontré aussi des écrivains, enfin des penseurs. J'ai eu beaucoup d'affinités dans mes études avec Michel de Montaigne, qui est un auteur qui m'a passionnée. J'avais un professeur qui nous a complètement passionnés pour les essais. Et quand j'ai fait mes études, je me suis beaucoup consacrée aussi à Montaigne et à la période de la Renaissance. J'ai fait mon mémoire sur Agrippa d'Aubigné. Les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné, qui est une réécriture de l'Apocalypse. C'est magnifique. Il y a aussi toute la mythologie, parce que je suis passionnée de mythologie. J'ai beaucoup voyagé en Grèce. C'est mon premier voyage à l'étranger, je l'ai fait en Grèce. Et j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour la mythologie grecque. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a... Plus la Bible aussi, enfin, tout ça m'inspire aussi dans mes compositions imaginaires.
Oui, parce que je vois la cérémonie, par exemple. Parce que, alors derrière, je ne sais pas, c'est une église ou c'est un temple?
C'est une évocation du Forum de Rome, avec les pins parasols. C'est une cérémonie païenne, en fait, hein, oui. Que j'ai représentée. Question d'un sacrifice, mais on ne voit pas trop le sacrifice. C'est un peu une cérémonie païenne et en même temps la préfiguration de ce que sera après les cérémonies chrétiennes, en fait. Oui.
Donc il y a aussi, comme ça, l'histoire des religions vous intéresse?
Mais ça, bah, justement, quand j'ai fait mon mémoire sur les tragiques d'Agrippa d'Aubigné, ce qui m'a intéressé, c'est justement de voir cette réécriture de l'Apocalypse, de voir comment l'auteur protestant se réappropriait le texte de Saint Jean et comment, par cette réappropriation, il pouvait critiquer aussi l'Église catholique. Mais bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je peux dire d'expliquer tout là en 5 minutes. Mais moi, j'avais fait tout un relevé sur lexical, sur le... Ce qui m'a intéressé, c'était l'incarnation du mal dans le langage. C'est comment parce qu'il est beaucoup question des péchés capitaux, parce que l'Apocalypse, c'est quand même le mal qui est représenté, exprimé, même si à la fin il y a le salut, c'est quand même.
Il y a la bête d'abord.
Oui, c'est ça, il y a la bête d'abord. Exactement. Et du coup, c'est ça qui m'a interpellée. C'était de voir comment s'incarnait dans le langage cette donnée du mal. Cette entité, cette réalité, vous voyez. Donc j'ai fait tout un travail là-dessus dans mon mémoire.
Alors on comprend que j'en reviens à la peinture, que le travail auprès de Philippe Lejeune est très important, évidemment, cette école des temples. Néanmoins, je trouve que Vous vous distinguez tout de même quand même beaucoup des peintres des temples quand même. Il y a chez vous peut-être quelque chose de plus complexe, de plus une autre quête peut-être, non ? Enfin, je...
En fait, je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer. Moi, disons que je fais des... C'est difficile à dire, de se comparer. Moi, je dirais que j'ai été touchée par la personnalité de Philippe le Jeune, parce que c'est un homme qui véhiculait toute une philosophie, toute une ligne esthétique. Bon, il était très religieux aussi, donc tout ça, bon, ça m'a énormément impressionnée. Après, moi, j'étais moi-même intéressée par tout ce qui était lié au spirituel. Donc bon, c'est, je veux dire, ça fait écho. Après, bon voilà, bon, y a peut-être cet aspect-là chez moi, mais je pourrais pas. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un côté plus littéraire, plus poétique.
Cette grande toile là, par exemple, qui est devant moi, qui s'intitule Échappée belle, on voit que bon, elle affirme une complexité, peut-être sans doute plusieurs niveaux de sens.
Alors déjà, il y a tout l'aspect pictural, la surface, elle est traitée de manière assez abstraite, et donc il y a beaucoup d'éléments graphiques, colorés, où on est loin en fait d'un réalisme plus classique, ça c'est sûr. Même dans la représentation des personnages, et ça c'est une toile qui m'a pris beaucoup de temps parce que ça n'a pas été élaboré à partir d'un croquis, ça a été élaboré au fil du temps. C'est ça. Et c'est vrai que c'est difficile là, de l'expliquer en quelques mots parce qu'elle est très complexe. Et c'est un peu le féminin et le masculin. Et c'est dur à expliquer.
Il faut le voir. De toute façon, une peinture, ça ne s'explique pas, évidemment. Il faut absolument...
Ouais. En fait, j'ai expliqué cette peinture dans une vidéo parce que j'ai exposé ce tableau au Salon d'automne. Et je pourrais vous la communiquer. Bon, ça peut pas passer.
Nos auditeurs, bien évidemment, seraient intéressés pour voir cette vidéo. Alors, il y a aussi d'autres sujets. Il y a aussi bien des il y a des iris. Il y a des natures mortes.
Oui, c'est des fleurs de mon jardin. Il y a les roses trémières du jardin de mon père. En fait, c'est des fleurs. Qui vont me toucher comme des personnes, en fait, et j'en fais des portraits.
Et puis des natures mortes des citrons.
Alors ça, c'est pour les couleurs, c'est parce que c'est une forme avec laquelle on peut jouer, c'est des formes simples. Et donc ça, c'est plus pour le côté couleur, arriver à composer quelque chose avec... Bon, comme l'a fait Chardin, en fait, Chardin, c'est l'un des premiers peintres à avoir fait des... A mis à l'honneur la nature morte, qui était un genre mineur. Et du coup, voilà, bon, c'est ça aussi la peinture. C'est pas que des grandes toiles qui veulent dire des grandes choses. C'est aussi peindre des choses simples, comme les citrons.
Peindre des couleurs, vous êtes une coloriste ?
Si, si, je pense.
Vous travaillez beaucoup, vous peignez beaucoup ?
Alors, ça dépend des moments, mais j'essaye de peindre régulièrement, oui. Après, ça dépend des opportunités, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est toujours important de travailler, soit en peignant, soit quand on n'a pas l'opportunité de peindre, parce qu'on n'a pas toujours l'atelier disponible, ne serait-ce que par le regard, c'est toujours aiguiser son regard, observer...
Un carnet de croquis, par exemple, sur soi, ça vous a... Toujours, il est là.
Au volant de votre voiture, vous regardez les nuages et vous pensez au tableau que vous allez faire, même si vous n'avez pas le pinceau à la main, vous voyez. Je pense que c'est comme un écrivain, sans avoir toujours son ordinateur ou son stylo, il pense à tout ce qu'il va écrire. Et puis, vous voyez, on est baigné, en fait, par notre métier. Hein.
Oui. Quand ça arrive en voiture, on est pressé d'arriver. Merci beaucoup. Donc cette exposition est à voir au Prieuré.
C'est un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que les auditeurs pourront venir.
Ils viendront, ils vont à courir.
Voir l'exposition. Merci beaucoup.
Merci à vous. Charmante et talentueuse Carole Melmou, que vous pouvez découvrir au Prieuré Saint-Vincent à Chartres, c'est rue de la Porte Cendreuse, jusqu'au 13 juin. Et puis sachez que Carole Melmou donne des stages et des cours d'art plastique à Montigny, c'est dans le Loiret. Vous pouvez bien tout simplement l'appeler si cela vous intéresse au 06 78 20 60 05. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Paris-ci, les sorties Chartres. D'ici là, soyez fidèles au programme de Radio Rancière, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.